1,1 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Stéphane Sauduteil nous accompagne, trader pour compte propre. Bonjour Stéphane.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 8 mai, hein, parce que c'est vrai que eh bien, même les jours fériés, la Bourse de Paris continue de coter. Bon, il se passe quoi là sur les marchés? Il y a des rachats de short, il y a des investisseurs qui se retrouvent sans short, j'ai envie de dire.
Écoutez, il y a pas beaucoup d'investisseurs hein, sur les marchés, mais c'est vrai que les quelques investisseurs qu'il y a sont plutôt optimistes. En fait, quand on prend un petit peu de recul sur un mois, eh bien en fait on évolue dans une phase un petit peu d'attente entre 7900 points en bas et puis 8150 en haut. Et là, on est en train de revenir sur cette borne supérieure. Alors attention quand même, parce que ce manque de volume fait craindre peut-être un petit peu un retour en arrière en début de semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est toujours bon à prendre. On a pris quasiment 3% en quelques jours. Hein. C'est quand même honorable, très honorable pour le signaler. Alors, est-ce qu'on va être capable de s'installer en clôture au-dessus des 8150? Si tel est le cas, eh bien, on pourra peut-être viser un peu plus haut, c'est-à-dire 8200, voire 8250, la zone de points hauts annuels. Rien ne l'empêcherait d'aller jusque là-haut, sauf si le retour des opérateurs lundi en décide autrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste toujours un petit peu dans cette phase d'attente. On tourne autour des mêmes niveaux hein, depuis un mois et demi. Donc voilà, rien de vraiment nouveau. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Et puis hier, hein, avec cette belle séance, voilà, le CAC 40 revient sur cette première zone de résistance autour des 8150.
8150 à l'instant, et donc il est à 103 points de son record historique qui avait été touché. Une hausse qui est entretenue notamment par AXA, hein, qui est la plus forte hausse de l'indice parisien, plus 2,5% à 33,44, avec l'assureur qui a annoncé un programme de rachat d'actions de 1,8 milliard d'euros. Vous avez également Veolia qui gagne plus de 2%, Vinci plus 2%. À l'inverse, Stellantis perd 2%. On verra dans un instant pourquoi, hein, Julien, hein, secteur automobile qui est un petit peu sous pression avec BMW. Et puis alors, Stéphane, un mot quand même d'une valeur qui est sur un plus haut historique aujourd'hui dans le CAC, c'est Schneider Electric, avec la valeur qui a touché les 227 euros. Alors là, j'imagine que techniquement, c'est superbe, hein, Schneider Electric, un groupe qui n'en finit plus de toucher des records historiques. Hein, c'est très propre hein, en termes de graphique.
Oui, c'est vrai que la tendance haussière est très bien ancrée. En fait, on a déjà gagné depuis octobre dernier, cette dernière phase de consolidation, 68%, donc c'est exceptionnel. Et puis, on était un petit peu en phase de consolidation depuis le 18 mars dernier entre 204 et 219, et puis là on est passé au-dessus de 219, donc ça ouvre encore un potentiel de hausse supérieur sur le titre hein, vers 234 euros. On est à 226,80 à peu près, donc il y a encore hein, un potentiel de hausse sur cette excellente valeur, vraiment valeur à mettre en fond de portefeuille à chaque fois qu'on revient un petit peu en arrière.
Et comme quoi les valeurs chères peuvent devenir, Julien, pas de plus en plus chères, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait des années que j'entends Schneider, c'est cher, ça se paye 25 fois les profits et ça n'en finit plus.
Je suis entièrement d'accord. L'autre exemple, c'est Hermès. Hein. Hermès, ça fait des années, même lorsqu'ils sont entrés sur le CAC 40, il me semble que c'était en 2020, si je vous dis pas de bêtises. Hermès, on disait c'était cher, sauf que ça continue de monter. Et ça continue aussi de publier des résultats qui sont parmi les meilleurs, ou si ce n'est les meilleurs du secteur, Hermès. Donc vous avez raison, en fait. C'est pas parce qu'une valeur est chère qu'elle ne monte plus.
Et on le voit encore avec Schneider Electric, et puis surtout c'était frappant lors des résultats avec Legrand, hein, le grand écart qui avait entre Legrand et Schneider Electric avec le virage technologique qui a été pris par l'entreprise. Stéphane, je parlais il y a un instant de AXA. Bon bah c'est vrai que là le programme de rachat d'actions booste la valeur hein, puisque c'est la plus forte hausse du CAC 40. AXA, bon là on n'est pas sur des records historiques, mais là aussi très beau parcours depuis le début de l'année.
Oui, c'est vrai que AXA, dans une moindre mesure, hein, avec une volatilité un petit peu moins forte, ce parcours ressemble un petit peu à celui de Schneider. Bon, on n'a pris que 28% depuis octobre dernier, mais bon, ça reste quand même une belle progression. Là, on était également en phase de consolidation depuis le mois d'avril, entre 33 et 31, et puis on est passé au-dessus de 33. Donc là aussi, on a un potentiel de hausse vers 35, 36, peut-être même 38 hein, à court début moyen terme. Donc très belle valeur également. C'est vraiment une tendance très nette, très lisse, très propre.
Julien a envie de réagir.
Non, c'était juste pour... pardon, je vous ai dit une bêtise. Hermès est entré au CAC 40 en 2018, pas en 2020. Ah. Je me permets. prendre.
Merci Julien pour cette précision. Stéphane, vous restez avec nous puisque dans un instant, vous allez nous donner votre point de vue graphique, technique sur Alstom. Mais juste avant, eh bien, Julien, on va revenir avec vous sur cette publication parce qu'il y a de quoi dire quand même sur Alstom, que ce soit sur les résultats, mais aussi sur le projet de recapitalisation. En tout cas, aujourd'hui, la nouvelle passe très bien puisque vous avez ce titre Alstom qui prend 6,8%, très volatile.
Oui, c'est très volatile. Alors, évidemment, les volumes sont faibles et c'est ça qui explique la volatilité en partie. Mais le plan de désendettement d'Alstom a été dévoilé. Il y a notamment 1 milliard d'euros d'augmentation de capital prévu. Alors, pourquoi le marché n'a pas peur? Eh bien, en fait, il faut comprendre que les annonces, en fait, finalement, elles sont en ligne avec les attentes. C'est notamment ce que nous dit Morgan Stanley. Il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est ce que nous dit également un intermédiaire financier. Et du coup, avec cette absence de mauvaise surprise, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas peur. Et du coup, les investisseurs short, c'est-à-dire ceux qui vendent à découvert l'action en empruntant l'action, eh bien, ils disent, si les mauvaises nouvelles sont passées, eh bien, il faut déboucler la position. Et ça contribue au courant acheteur qu'on observe. Voilà notamment pourquoi vous avez une telle volatilité et pourquoi vous pouvez avoir une hausse alors que finalement c'est ce qu'on attendait, plus ou moins.
Avec notamment eh bien, une augmentation de capital et puis aussi un groupe qui a annoncé plusieurs cessions, on s'en souvient ces derniers mois, tout ça dans l'objectif de désendetter le groupe.
Hein. Tout à fait, vous avez raison. Donc les cessions, elles ont déjà été réalisées ou elles ont été annoncées. C'est le cas pour la signalisation ferroviaire, une partie de la signalisation ferroviaire en Amérique du Nord. Ça rapportera 700 millions d'euros total. Vous ajoutez aussi à cela en fait, ce qu'on appelle de la dette hybride à 750 millions d'euros qu'ils veulent émettre dans les prochains mois. Et ça, c'est considéré à moitié comme du capital par les agences de notation. Et vous l'avez dit, l'idée, c'est de se désendetter. Au total, c'est 2 milliards de dettes en moins. Et d'ailleurs, Moody's aujourd'hui a, et c'est une bonne nouvelle, confirmé la note de crédit. Ils ont même dit qu'ils relèveraient la perspective à stable si Alstom va au bout de son programme de désendettement.
Et pourquoi aujourd'hui c'est si important cette note de crédit d'Alstom?
Alors ça, Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, l'a très bien rappelé lors d'une conférence avec des journalistes. C'est clé. Pourquoi? Parce que ça permet de se financer à moindre coût, mais ça permet aussi d'avoir accès à davantage de garanties. Et ça, c'est une exigence des clients dans les contrats commerciaux d'Alstom. Donc c'est la compétitivité sur les appels d'offres en fait.
Les résultats, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? C'est du rouge hein, toujours, hein. C'est des pertes pour Alstom, mais c'est mieux que prévu apparemment.
C'est ça, je vais nuancer. Non mais écoutez, en vrai c'est pas si mal quand vous regardez dans le détail. Vous avez raison, sur l'ensemble de l'exercice, Alstom a brûlé un peu plus de 550 millions d'euros de cash, même mémoire est bonne, mais sur le second semestre, le cash est revenu dans le vert à 562 millions d'euros, et ça c'est plus que prévu par les analystes. Quand on regarde dans les détails, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont aussi supérieurs aux attentes. Donc la copie, elle est globalement bonne du point de vue des résultats. Par ailleurs, ça, je suis plus dans le ressenti personnel quand je vous dis ça. Et moi, j'ai écouté la conférence analyste. J'ai trouvé que la direction avait donné plus de détails et même beaucoup de détails sur comment est-ce qu'ils font pour mieux contrôler le cash, ce qui est un peu le nerf de la guerre chez Alstom, pour réduire les stocks, dans le pilotage, la coordination entre les services opérationnels et financiers. Ils ont créé ce qu'ils appellent un cockpit de cash en octobre. Voilà. Et ça, je trouve, de mon point de vue, que c'est plutôt encourageant.
Avec notamment une direction qui a été remaniée et qui va encore être remaniée chez Alstom, avec l'arrivée de l'ancien patron de Safran, qui va devenir président du conseil.
Oui, Philippe Petit-Collin qui deviendra président, comme vous l'avez dit. Alors, Philippe Petit-Collin au conseil d'administration et Bernard Delpit à la direction financière. C'est l'ancien DG et l'ancien directeur financier de Safran. Donc, c'est Safran un peu. On retrouve la direction de Safran. Et les deux, sincèrement, c'est pas good cop, bad cop, c'est deux dirigeants qui ont une certaine poigne, si vous voulez, mais qui étaient très appréciés chez Safran par les investisseurs pour une exécution opérationnelle vraiment remarquable.
Avec Safran qui est sur des plus hauts historiques, et donc Henri Poupart-Lafarge, qui est PDG du groupe, va voir son poste splitté.
Oui, hein, ça arrive, c'est une scission. C'est une scission, c'est généralement apprécié par les investisseurs quand vous faites ça. On se rapproche du modèle anglo-saxon.
Stéphane Sauduteil, vous êtes toujours avec nous. D'un point de vue technique, comment ça se passe pour ce titre Alstom, qui a vécu une descente aux enfers? Et puis, depuis les 10 euros, qui connaît un parcours spectaculaire, puisque le titre a pris plus de 50% en l'espace de quelques mois.
Oui, c'est vrai que la descente en enfer avait été assez sévère, puisqu'entre juillet 2023 et décembre 2024, on était passé de 28 à 11, on avait perdu 60%. Le titre va beaucoup mieux depuis le débordement de 12,50 €. Là, on est autour des 16,50. Je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse. On pourrait reprendre presque la moitié du terrain perdu. Alors, reperdre la moitié du terrain perdu, ça voudrait dire remonter vers 20 € à peu près. Donc, je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse sur le titre. Donc, je pense que tout accès de faiblesse vers 15,50, 16 peut être l'occasion de d'acheter un petit peu du titre. Alors modérément, parce que ça reste un titre très très volatile, hein, pas peut-être à mettre entre toutes les mains. Mais c'est vrai que ceux qui croient dans le titre, je pense qu'il y a vraiment un potentiel peut-être vers 20 euros.
En tout cas, on vous a posé la question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Vous, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business, Alstom va lancer une augmentation de capital. Faudra-t-il souscrire ? Faudra-t-il, en effet, parce que pour l'instant, elle n'est pas lancée, hein, Julien.
Non, tout à fait. Alors, c'est d'ici à septembre. Normalement, c'est donc septembre au plus tard, ça dépendra un peu des conditions de marché. Maintenant, faut-il souscrire ? Écoutez, en tout cas, les actionnaires principaux d'Alstom, qui sont BPI France et surtout la Caisse dépôt et placement du Québec, eux ont décidé de remettre au pot pour ne pas se faire diluer. Donc à vous de voir, si vous croyez au potentiel de redressement, maintenant qu'on a le gros est passé, ça peut être une bonne chose ou pas.
Il faudra voir les conditions avec la décote, ouais, avec tout ce qui se passe en fonction des DPS, des droits préférentiels de souscription. Pour l'instant, nos auditeurs, téléspectateurs sur Twitter ont plutôt dit non. Hein, c'est le non qu'il a emporté à 59% sur cette question. Donc, faut-il participer à l'augmentation de capital ? Non. Avez-vous répondu sur Twitter ? Voilà pour ce dossier Alstom. Un mot à rajouter peut-être dessus, Julien ?
Non, pas forcément. Mais encore une fois, je trouve que la prise de parole de la direction a été particulièrement dense et plus détaillée, si vous voulez. Ça, c'est un élément pas vraiment tangible, mais qui peut donner une certaine chose. Et puis, on est sur des rachats de short, hein. C'est aussi pour ça, comme j'ai dit, hein, c'est pour ça que le titre augmente. Et on reste aussi sur une entreprise qui a des perspectives commerciales qui sont bonnes, ça il faut aussi le rappeler.
Avec un carnet de commandes qui est là, mais le tout maintenant c'est de gagner de l'argent sur les livraisons, c'est vraiment le défi de la direction qui est en place. Et donc ce titre Alstom qui gagne quasiment 7% à 16,73 €. Dernier point, Stéphane Sauduteil, et puis après je vous libère, mais quand même un mot sur une autre valeur que vous avez repérée aujourd'hui pour nos auditeurs. Téléspectateurs, c'est Essilor Luxottica qui avait publié ses résultats ces derniers jours. Là aussi, on était sur une valeur qui affichait un très beau parcours.
Oui, c'est vrai. Là, je pense que c'est une valeur de fonds de portefeuille par excellence, une valeur de père de famille, on pourrait presque dire. C'est vrai qu'on a donné un très très beau signal en passant au-dessus de 185 euros dès le mois de février. Et ça, on était engagé en fait dans un triangle symétrique de long terme, hein, depuis 2021. Donc techniquement, le potentiel de hausse à la sortie de ce triangle, c'est entre 230 et 240 euros. Donc on est autour des 204, un peu en dessous de 205 euros. Donc je pense qu'il y a encore un vrai potentiel de hausse, alors peut-être pas immédiatement, hein, mais un potentiel à moyen début long terme, d'au moins 20% sur le titre. Donc vraiment un très très beau titre, je pense. Ne pas hésiter à l'acheter sur repli également. On peut aller même entre 185 et 200 pour essayer d'investir dessus. Voilà, très très belle valeur.
Et un titre qui est quasiment stable aujourd'hui à 204,50 €, Essilor Luxottica. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, trader pour compte propre, de nous avoir accompagné sur BFM Business. On vous retrouvera dans un peu moins d'une heure au fixing, juste après la clôture.